Auditeurs, auditrices, bonjour. Je poursuis ma série de reportages sur des lieux de vie. Jeudi 25 juillet 2024 se tenait la fête de quartier à la résidence Henri Dunant, Croix-Rouge, à Tours. Cette résidence, c'est un EHPAD et une résidence autonomie. Au programme de la dite fête de quartier, barbecue, vestiboutique, pétanque, sangria et cocktail avec le bistrot Bertha. L'établissement Henri Dunant a la volonté d'ouvrir son lieu aux voisins, d'impliquer résidents et professionnels dans les projets d'animation et de soins. Cette fête de quartier est l'occasion de rencontrer des professionnels. David, directeur d'établissement, Erwan, volontaire en service civique, Jordan, animateur, ou Mariek, ASH. Nous rencontrons aussi des habitants et leurs familles, ainsi qu'Antoine du bistrot Bertha.
Qu'est-ce que tu penses là du fait qu'on organise une fête de quartier comme ça avec le bistrot Bertha qui revient ?
Erwan, volontaire en service civique.
Bah ça c'est super, ça devrait être plus souvent même parce que ça fait une distraction. Parce qu'ici des distractions, il n'y en a pas énormément.
Oui. Bah surtout que là du coup on va en plus organiser quelques petits jeux au cours de la journée, ça va être bien aussi. Et tu participeras au jeu hein ?
Oui peut-être, je vois.
On te poussera à participer. L'année dernière, tu avais assisté aussi au bistrot Bertha qui était venu.
Oui.
C'était bien.
C'était bien. Hein. Ah bah voilà.
Ah oui. Et là, du coup, cette année, comment tu le vois là, qu'on refasse venir le bistrot Bertha et qu'en même temps, du coup, on fasse aussi tout cet événement autour du bistrot avec un chanteur, tout ça.
Ça, c'était très, très, très bien. Très bien. Il faut choisir le chanteur aussi pour qu'il aille avec les personnes de notre âge.
Normalement, il a été bien choisi.
Bon,
alors, normalement, c'est bon.
Alors, tout va bien.
Bah oui, tout va bien. Mais ça anime un peu, au moins, les pattes, ça fait un peu d'animation.
Exactement, puis les gens aiment bien.
Ah bah oui, ça fait un peu
d'animation. La chanson, la musique, ça, c'est...
Pour toi, un peu moins.
Oui, moi pas, mais ça, c'est spécial.
Oui, c'est spécial. Mais bon, tu verras. Je suis sûr que ça va te plaire.
Ah bah alors, entendu. Alors, j'écouterai ça avec plaisir.
Le monsieur, il s'appelle Serge Fouché. Là, je viens de terminer une licence en musicologie. Un service civique en EHPAD, ça se passe surtout du coup au niveau de l'animation. Et puis, étant donné que je dépends du coup de la Croix-Rouge, je dépends aussi du service solidarité senior. Donc là, apparemment, vu que c'est quelque chose d'un peu nouveau, ils ont refait tout leur système de formation. Donc j'ai plein de visios tous les mois, et notamment une qui est en présentiel sur Paris. Mais je passe quand même la majorité du temps sur place dans l'EHPAD avec les résidents. Et puis, je passe du temps avec eux, on anime leur journée, et voilà.
Et comment on se retrouve service civique ici, alors ?
Moi, c'est assez particulier, c'est parce que je venais de terminer mes études. Et il me fallait... Je me voyais pas rester 6 mois sans rien faire avant de rentrer chez moi. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me permettait de bouger et puis de découvrir aussi... autre chose plutôt que vraiment rester cantonné à mes études ou quoi que ce soit. Donc j'avais déjà travaillé avec des enfants et des adultes auparavant, donc je me suis dit la suite logique, pourquoi pas faire les personnes âgées, c'est toujours une bonne expérience, même si plus tard je compte pas forcément faire ça. Dans les types d'animation, on essaie forcément, étant donné qu'ici on a la chance d'avoir des camions, on avait par exemple une fois on avait fait un repas avec un autre EHPAD qui se trouve à Verrette, il me semble. Eux, par exemple, ils n'avaient pas de camion, donc c'est compliqué. Nous, on a cette chance-là, donc on essaie quand même de leur faire des sorties, souvent à l'extérieur. Par exemple, lundi, on était parti faire une balade avec les gens de la résidence autonomie et on est resté sur place pour faire un pique-nique. Et après, avec les gens de l'EHPAD, forcément, on essaie aussi de faire la même chose. Et y a aussi des activités comme par exemple un atelier peinture le mardi après-midi. On essaie par exemple de faire aussi des activités le plus possible avec eux, si ça peut nous aider dans les projets dans lesquels on se lance. On essaie aussi d'impliquer les résidents, par exemple les coussins comme il y a derrière. Les tissus qu'on a récupérés, on a essayé de les faire avec les résidents, on a essayé de les couper avec les résidents, voilà. J'avais pas forcément un regard particulier envers les personnes âgées, ce sont des personnes comme nous. Donc j'avais tendance à être trop direct à la base. Non, donc oui, ça apprend aussi à être plus patient sur certains points aussi, avec certains où ça peut être compliqué. Ça reste un EHPAD, mais j'avais pas forcément d'a priori, donc on va dire que dans ce sens-là, ça a pas changé mon regard, mais ça a plutôt changé, on va dire, mon approche envers eux, et avoir une approche peut-être un peu plus aussi empathique, étant donné que j'avais pas forcément ça trop au début. Voilà, mais après, oui, ça a pas forcément changé... mon regard, le regard que j'avais envers les personnes âgées en général.
Bonjour Madame Boutet.
Bonjour.
Donc vous êtes habitante ici de cette EHPAD Henri Dunant. Depuis combien de temps vous habitez ici ?
Ça va faire la quatrième année. Je suis arrivée ici par obligation, bien sûr, étant donné que j'ai fait un malaise et que je ne pouvais plus rester chez moi. Donc je suis venue en EHPAD. La vie ici est pas désagréable du tout. Une fois qu'on a intégré qu'on avait perdu son autonomie, je pense que ça aide pour s'habituer dans un lieu où on est sécurisé, où on a des gens qui s'occupent de nous. Et ma foi, on s'habitue, on se fait un deuxième chez soi. Je trouve que si on accepte son handicap, c'est beaucoup plus facile de vivre en EHPAD.
Bonjour David Racapé, directeur de l'établissement ici.
Oui, directeur de tout le site. Alors ici, c'est un EHPAD, une résidence autonomie et un centre de soins infirmiers.
Est-ce que vous voulez nous expliquer plus en détail à quoi ça correspond, ces différents sites sur le même endroit ?
Eh bien, du coup, un EHPAD, donc un hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc ici, on accueille 88 résidents âgés de plus de 60 ans. Alors, en vrai, la moyenne d'âge est plus de 86 ans. Mais on a des résidents qui vont de 68 ans pour le plus jeune à 103 ans pour la plus âgée, qui fête ses 104 ans dans deux semaines. Voilà, donc ça, c'est sur l'EHPAD. Donc le besoin de personnes pour des personnes âgées qui sont dépendants, qu'ont besoin qu'on les accompagne sur tous les actes de la vie quotidienne, qu'ont des besoins en soins aussi, qui peuvent pas être faits au domicile. Donc nous, on est là avec une équipe médicale, aide-soignants, infirmiers et animateurs pour vraiment développer un vrai projet de vie pour ces personnes-là, pour les accompagner jusqu'à, on va le dire, hein, jusqu'à la fin de leur vie. Et sur le même site, on a une résidence autonomie. Là, c'est différent. On a 72 logements pour accueillir des personnes âgées seuls ou en couple de plus de 60 ans, mais qui sont, elles, justement, autonomes dans les actes de la vie quotidienne, qui sont souvent des personnes un peu isolées ou qui ont eu un accident de la vie ou qui sont éloignées de leur famille et qui ont besoin un peu de lien social, de se poser avec d'autres, d'être rassurées aussi. Donc on leur permet d'avoir un logement qu'elles meublent elles-mêmes. C'est des logements vides T1 bis ou T2 et elles le meublent elles-mêmes. Elles sont vraiment chez elles. Elles peuvent faire la cuisine chez elles. Elles peuvent vivre complètement en autonomie chez elles. Mais nous, on leur propose des activités régulièrement en journée. Il y a aussi un service de restauration dont elles peuvent bénéficier chaque jour de la semaine, midi et soir. Et puis voilà, et du coup, des actions, des projets, des animations, et le fait d'avoir un coordinateur aussi sur place qui leur permet aussi de pouvoir aller chercher de l'information quand elles en ont besoin. Et enfin, on a un centre de soins infirmiers où là, c'est vraiment des infirmiers à domicile qui exercent en libéral. C'est comme des infirmiers libéraux, qui sont sur le quartier dans un périmètre assez restreint, avec beaucoup de leur patientèle qui se trouve sur cette résidence autonomie. Et nous, on est tous, on fait partie d'un groupe, hein, puisque du coup, moi, la structure là et tout le site fait partie de la Croix-Rouge, puisqu'on accueille majoritairement des personnes qui ont aussi des financièrement, qui sont pas toujours qu'on combat toujours de gros moyens. Donc on est, nous, sur l'EHPAD, habilités à 100% à l'aide sociale.
Donc ça veut dire qu'il y a un reste à charge quasi nul pour les personnes ?
Pour certains qui font cette demande d'aide sociale, effectivement, on se retrouve parfois, pour certains, avec des restes à charge qui sont très 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 minimes.
Alors je crois que, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une troisième unité ou population ici ? Parce que je crois que derrière nous, là, il y a des unités fermées, peut-être ?
C'est ça. Donc, dans les 88 résidents d'EHPAD, on reçoit des gens qui ont des troubles cognitifs, beaucoup, et dont certains, ces troubles-là, apparentés à la maladie d'Alzheimer, qui ont besoin vraiment d'être dans des lieux plus sécurisés, plus cadrés. Donc, on a deux unités de 12 résidents chacun, qui permettent à ces résidents qui ont vraiment besoin d'un accompagnement de grande proximité et qui ont besoin d'être sécurisés dans des espaces, d'avoir leur chambre personnelle, d'avoir un espace aussi pour déambuler plus facilement et un peu plus sécurisé.
Bonjour Jordan.
Bonjour. Et j'ai pris ce poste maintenant, qui ça va faire bientôt 2 ans. C'était un poste d'animation. Moi, ça va faire plus de 10 ans que je travaille dans l'animation. Et voilà, je voulais découvrir une nouvelle expérience. Et il me manquait ce public-là, on va dire, les personnes âgées. Et j'ai pu arriver dans ce magnifique endroit, on va dire, parce que c'est quand même... un bel EHPAD avec un beau patio. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'on peut avoir trois publics différents. Publics différents, donc trois styles d'animation différentes. Alors ce que je fais ici, la liste peut être longue. On va dire que c'est un poste d'animation, mais il faut être assez polyvalent. Pas comme les gens pensent, c'est pas de l'animation où on joue juste à la belote avec les gens ou on joue au Scrabble. C'est voilà, vraiment... continuer de faire vivre ce lieu, faire rigoler aussi ces personnes que vous pouvez voir passer d'ailleurs. Voilà, c'est faire vivre ce lieu, comme je viens de le dire. C'est créer un espace de vie, comme là vous pouvez le voir, on a un beau patio, donc c'est pouvoir leur créer un espace de vie pour que celui-ci soit vivant pour eux. Ouais, on a construit un terrain de pétanque, là on a des bacs pour arroser les plantes, donc voilà, il faut s'en occuper. On a fait un petit bar mobile, on va avoir une boîte à livres qui va bientôt être inaugurée. Notre poulailler qu'on a pu monter en arrivant, voilà, les gens sont pleins de vie, sont pleins d'envie aussi, donc on essaie de créer des projets avec eux et de voir aussi leurs envies et de créer autour de ça, quoi. Je suis très proche de mes résidents, donc on entend beaucoup les envies, les demandes.
Je vois votre collègue là, des cuisines qui est en train d'installer un barbecue.
Oui, donc du coup on a prévu une grosse journée festive, hein, donc ce midi ça va être barbecue pour tous les résidents. Donc, parce que d'habitude, ils mangent des saucisses, des merguez ou des côtes de porc, mais cuits au four. Donc, on va dire, retrouver ce goût cuit au barbecue n'a rien à voir avec cuit au four. Donc, l'année dernière, ils nous l'ont réclamé. Donc, cette année, on le refait. On a 2-3 temps avec des barbecues comme celui-ci. Et donc, voilà, ça leur fait plaisir. Et puis là, on va avoir l'odeur aussi des grillades. Ce que eux ne connaissent plus déjà depuis, malheureusement, pour certains, bien longtemps. Donc, juste retrouver ce plaisir de l'odeur des grillades, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Nous aussi, à côté, on va apporter des petits jeux dits apéro, on dit, voilà, pour dynamiser un peu la chose. Et puis après, on va pouvoir amener la pétanque. On va avoir un petit bar à crêpes aussi, fait par par le PASA.
Ici, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir animer un atelier peinture. Je peignais à partir du moment où j'étais en retraite, j'ai commencé à peindre avec de l'acrylique. J'ai fait quelques tableaux et puis ici j'ai animé un atelier. Donc ça c'est extraordinaire, ça nous permet d'ailleurs d'être en groupe, de partager et de voir progresser les uns et les autres.
Qu'est-ce que vous peignez, Madame Boutet ?
Qu'est-ce que je peins ? J'ai commencé par des paysages et puis je me suis lancée dans l'abstrait. Le jeu des couleurs, je trouve ça très intéressant aussi. J'aime aussi la couleur, les couleurs vives, parce que ça met de la gaieté, du soleil. La gaieté du soleil, et ça c'est franchement très agréable. Nous avons des animations aussi diverses et variées. Hier, nous sommes allés au conservatoire de musique et écouter une répétition de concert. J'ai apprécié beaucoup, c'était Wagner, et ma foi, on a passé une après-midi assez sympathique. Et comme autre animation régulière, nous avons donc cette peinture, les sorties, la possibilité. Nous avons aussi eu la journée des Jeux Olympiques où on a participé en faisant des jeux. L'intérêt que j'ai trouvé de cet après-midi Jeux Olympiques, c'est que c'était la participation de tout le monde. Tout le monde a participé, tout le monde a vraiment pris plaisir à jouer. Puis on a gagné des médailles, et ça c'était très important.
Radio Campus Tours.
C'est France Inter.
C'est Radio Campus.
Qu'est-ce que c'est ?
Radio Campus.
Radio Campus Tours.
C'est pas vrai.
Ah, si, c'est vrai.
C'est vrai. Hein, bah.
99.5 FM.
Ouais, très bien.
Tu connais ?
Non, je connais pas.
Ah bah t'inquiète, moi non plus je connaissais pas.
Radio Campus. RadioCampusTours.com.
Alors comment ça se passe le lien entre les différents habitants ?
Bien parfois, mal parfois.
David Racapé.
Avec des résidents de la résidence autonomie qui disent « Ouh là là, les gens de l'EHPAD sont vraiment très vieux ». Bon, quand on sait qu'ils ont le même âge, hein, à peu près, voilà. Mais du coup, des actions qui se passent en commun, comme aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de faire un temps convivial où chacun, que ce soit résidence autonomie ou des gens de l'EHPAD, puisse participer et aller boire un verre et jouer à la pétanque. Donc il y a des moments où ça se passe très bien. Et puis, c'est sûr que c'est toujours compliqué hein, pour les résidents de la résidence autonomie de se dire « Bah moi, des fois je vois des gens à l'EHPAD qui ont vraiment des gros problèmes physiques et ça me fait un peu peur. Mais l'idée c'est de travailler ensemble sur ces sujets-là, ces projets-là, de travailler la prévention de la perte d'autonomie aussi, de travailler toute cette dynamique-là. Donc dans l'ensemble ça se passe plutôt bien dans le lien. Et puis l'idée c'est d'ouvrir un maximum nos établissements, dont l'EHPAD, puisqu'on sait qu'on a des résidents là en EHPAD qui vont pouvoir dire mais nous on a l'impression des fois d'être enfermés ici et que les gens ont peur de venir. C'est vrai, on a encore une image de l'EHPAD un peu lieu fermé, un peu des gens vieux qui bavent, où il se passe pas grand chose. Mais l'idée et leur envie à nos résidents, c'est aussi d'ouvrir ça, de créer des projets qui permettent aux gens de l'extérieur, aux voisins de venir, pour aussi montrer que dans l'EHPAD il y a des choses, il y a des projets et voilà, et que ça vit, c'est un lieu de vie, c'est vraiment un lieu de vie. Donc dans toute cette structure, dans tout ce site, voilà, c'est que des lieux de vie, des lieux de partage et des lieux de vie qu'on essaye au maximum.
D'ailleurs là, on aperçoit aussi, c'est la fille d'une résidente qui est en train d'installer la vestiboutique. Donc comment sont associées les familles sur ce lieu de vie ?
On essaye de les associer un maximum sur toutes nos activités. Elles ont leur place totalement auprès des résidents, hein, surtout sur l'EHPAD. Hein, quand certains me disent « Mais à quelle heure j'ai le droit de venir voir ma maman ?» Ben, en fait, quand vous voulez. C'est ouvert tout le temps. Alors bien sûr, on leur dit attention, le matin c'est parfois plus compliqué, c'est le moment des soins, c'est le moment des toilettes, c'est pas forcément le moment le plus simple, voilà. Mais si vous voulez venir le jour, la nuit, en fonction des projets, en fonction des besoins, c'est tout à fait possible. Donc ça, elles ont toute leur place et on insiste nous beaucoup pour que les familles gardent leur place auprès de leurs parents, voilà, pour éviter justement cet isolement. Et puis après, dès qu'on organise des temps comme ça, ben on essaye de les inviter, en tout cas à partager, à participer. Alors, et quand il y en a en plus qui viennent nous aider et nous filer un coup de main, c'est encore plus sympathique. Là, on voit, il y a un terrain de pétanque devant nous, ça c'est pareil, hein, ça a été fait en collaboration entre l'animateur, les résidents et des familles de résidents qui ont mis la main à la pâte aussi, avec que du matériel de récupération, mais qui sont venus nous aider à mettre des brouettes de gravillons. Donc on essaye le plus possible de les faire participer.
Bonjour madame.
Bonjour.
Alors là, vous êtes en train d'installer un stand de vêtements. Je crois que vous êtes ici parce que vous avez perdu un pari.
Tout à fait. Lors de la dernière fête avec Erwan, donc, qui est là dans l'animation, on a passé des vinyles et on s'est posé la question de savoir si c'était la chanson Kung Fu Fighting qui allait passer. Et donc, c'était le bon auteur-compositeur, mais ce n'était pas la bonne chanson. Donc, j'ai perdu le pari et me voilà pour la journée.
Donc qu'est-ce que vous faites ici ? On voit des vêtements, des cintres, il y a même une installation pour mettre les vêtements. Là, qu'est-ce que c'est ?
Alors la vestiboutique, donc la dernière fois j'avais dévalisé en venant ici profiter de la fête. Et cette fois, bah, c'est moi qui suis bénévole et qui installe la boutique.
Donc d'où viennent les vêtements ?
C'est des dons, des familles, des résidents, des personnes de passage. Et voilà, c'est les personnes de l'EHPAD qui ont trié, qui ont aidé à trier les vêtements avec l'équipe d'animation pour voir s'ils n'étaient pas tachés ni troués, enfin voilà, pour sélectionner ceux qui étaient en bon état. Et ma foi, c'est assez varié. Il y a des sacs de chaussures, des manteaux, des pulls, pantalons, etc.
Quelle importance ça a pour vous, à votre avis, des événements comme ceux-là pour les habitants ?
En fait, c'est de mélanger les personnes. Il y a beaucoup de familles qui viennent, il y a des voisins. Là, c'est la fête de quartier, tout un chacun peut venir. Donc, plus on est de fous, plus on rit. C'est ça, de mélanger les personnes, c'est des lieux de vie, d'échange.
Voilà, et alors, est-ce que vous allez profiter du barbecue et du bistrot Bertha ?
Oui, alors je suis là pour ça, en fait, essentiellement.
Et donc là, comme vous pouvez le voir, oui, c'est la fille d'une de nos résidentes qui vient avec sûrement ses petits-enfants.
Jordan, animateur.
Et voilà, qui profite aussi de ce lieu. Et puis, voilà, c'est un mélange de générations. Et sincèrement, les résidents sont... vous pourrez voir qu'ils sont tellement heureux de pouvoir revoir des enfants. C'est un bonheur pour eux, donc... On a des temps aussi l'année, comme ça, des temps intergénérationnels où on a des temps avec les écoles ou avec l'école de l'IRCOF qui est juste à côté, là, qui est pour les personnes qui sont sourdes et malvoyantes. Donc voilà, on a plein de projets comme ça. Donc oui, là, vous pouvez le voir. Ils profitent de ce patio qui, sincèrement, est un point fort de notre établissement.
On sait que sur les EHPAD, majoritairement sur les EHPAD, l'image est parfois un peu compliquée. Il y a eu des histoires un peu complexes.
David Racapé.
Donc nous, l'idée, c'est ça, c'est de le garder ouvert, c'est de pouvoir répondre aux familles aussi qui s'inquiètent, c'est de pouvoir échanger avec elles, les accompagner au maximum à tous ces niveaux-là. Donc sur la résidence autonomie, elles sont un peu moins présentes parce que justement le résident est plus autonome et c'est souvent la famille est souvent un peu plus éloignée. Mais pareil, on les invite à toutes les actions qu'on fait. D'ailleurs, que ce soit sur la résidence autonomie ou sur l'EHPAD, on a deux conseils de vie sociaux, les CVS. C'est des choses qui sont obligatoires par la loi 2002, mais nous qui fonctionnent avec des représentants des résidents, avec des représentants des familles, avec des représentants des salariés sur les deux CVS.
Alors quelles peuvent être les doléances des habitants justement sur ces CVS ?
Alors sur les CVS, on va parler de toute la partie financière. Alors c'est toujours trop cher, mais ça on fait évoluer les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le CVS et sur l'EHPAD, et sur la résidence autonomie aussi, on a des espaces d'expression pour nos résidents. Par exemple ici sur l'EHPAD, tous les mois, on a un petit café avec tous les résidents qui le souhaitent, qui le peuvent aussi, pour venir échanger, partager sur la vie quotidienne de la résidence. Et sur la résidence autonomie, tous les 15 jours, pareil, on a un café discussion pour partager tout ce qui se passe dans la vie de l'établissement. Donc leurs doléances principales sont sur la restauration. Il faut qu'on mange mieux, voilà, c'est parfois pas très bon, voilà. Donc on travaille ce sujet-là vraiment avec eux. Pareil, on a mis en place des commissions restauration. Leur autre doléance, c'est sur l'animation. Il faut qu'il y en ait plus, il faut qu'on sorte plus. Voilà, c'est leur envie aussi qu'il y ait des choses qui se passent, qu'il y ait plus de vie, qu'on crée des actions ensemble. Et puis la troisième doléance, c'est, alors là principalement sur l'EHPAD, c'est le lien avec les soignants, parce qu'on sait que c'est parfois compliqué, parce qu'on est dans une situation où où trouver des soignants, c'est pas simple. Voilà, c'est des métiers qui sont en tension et c'est parfois aussi l'inquiétude de certains de nos résidents qui disent c'est triste parce que un tel est parti, on connaît pas les gens qui sont avec nous. Donc on essaie nous d'avoir et de stabiliser un maximum l'équipe par rapport à ça, mais c'est parfois un peu compliqué. C'est vraiment là-dessus, sur ces trois thématiques-là, qu'on a le plus de retours, mais c'est avec eux qu'on travaille aussi tous ces sujets-là, que ce soit la restauration, ça on le travaille de manière très régulière avec eux, l'animation, pareil, on a un animateur qui prend le temps et avec qui on essaye de développer des projets, et puis sur le lien, sur la vie dans l'établissement, par exemple sur l'EHPAD, on a un groupe de résidents qui a lui-même fait le déroulé de journée qu'il voudrait pour eux sur l'EHPAD, et on l'a confronté au déroulé de journée proposé par les soignants, et on essaye maintenant d'adapter ça. Donc c'est pas simple, mais on travaille le sujet.
Je suis Mariette Louboussou, je suis ASH du premier étage. Donc notre but en fait, c'est pour aider des personnes âgées qui sont ici présentes à l'EHPAD. Le petit déjeuner, le repas de midi et jusqu'à le soir, et faire leur chambre au quotidien. Donc voilà, c'est ça mon travail.
Et le lien avec les personnes aussi, très important.
Bien sûr, oui, très important, comme Madame Bouté qui est là en face de moi, et puis et d'autres résidents qui sont gentils, qui sont aimables. On peut dire que c'est un peu comme la famille ici, parce qu'on passe plus notre temps au travail qu'à la maison. Ouais.
Bah, merci beaucoup à vous, et puis bah, je vous laisse continuer la tournée du café. Merci beaucoup.
Pour nous, c'est des gens précieux. Sinon, ils nous accompagnent dans tous les gestes de la vie quotidienne. Et on compte beaucoup sur eux et on partage de bons moments ensemble.
Et inventer une programmation culturelle directement ici qui serait ouverte aussi à l'extérieur.
Je serais ravi. Voilà, c'est ce qu'on aimerait faire. Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de moyens, de temps aussi. On a un animateur qui est là, lui, à temps plein, mais pour l'ensemble, donc ça veut dire les 88 résidents ici sur l'EHPAD et les 72 résidents de la résidence autonomie. Donc bah c'est pas simple de prendre du temps pour ça. On va travailler là avec une compagnie de théâtre à la rentrée, mais bien sûr, j'aimerais qu'il y ait plus de... En plus, moi je trouve qu'on a un patio qui s'y prête, d'avoir de faire venir la culture un peu plus dans nos établissements. Ce serait vraiment quelque chose qui nous intéresse, comme développer un peu la place aussi de citoyens un peu plus, ce qu'on disait avec des résidents. Et puis là on est en collaboration avec le CCAS aussi à ce niveau là et surtout le projet du plan bien vieillir de la mairie de Tours, pour essayer de faire parler un peu nos résidents et de voir avec eux aussi comment on pourrait améliorer leurs conditions. Alors ce qui m'a été rapporté moi l'autre jour, là on est en plus au moment des élections, certains résidents ont pu me dire mais pourquoi est-ce qu'on met pas les lieux de vote dans les EHPAD plutôt que de les mettre dans les écoles? Les écoles, il n'y a personne, alors que nous, y a du monde, ça nous permettrait d'aller voter facilement, et puis du coup on aurait un dimanche avec plein de monde qui pourrait venir, on pourrait croiser plein de monde, donc pourquoi pas. Enfin voilà, des sujets comme ça pourrait être intéressant. Mais le côté culturel, on développe nous des projets avec la bibliothèque, avec la médiathèque. On essaye d'avoir des artistes, mais ça c'est pareil. Les artistes, c'est comment on les rémunère, donc on répond aux appels à projets. On essaye de travailler ces sujets-là, mais c'est complexe.
D'ailleurs, à propos de la ville de Tours, je crois que c'est des bancs de la ville de Tours qu'on voit là, c'est de la récup.
Ouais, c'est de la récup. On a récupéré en lien avec la mairie des bancs dont ils se séparaient, comme les morceaux de bois qui entourent notre terrain de pétanque. C'est aussi des choses récupérées avec les services de la ville de Tours.
Mais bon, c'est une façon aussi d'être visible auprès de la municipalité, de faire cette demande de récup, peut-être de subvention aussi pour financer une journée comme aujourd'hui.
C'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Avec la mairie de Tours, on a des bonnes relations, mais il y a aussi des EHPAD de la ville, du CCAS, avec lequel ils sont en grand partenariat. Nous, on sait qu'on travaille sur les mêmes publics et qu'on est dans les mêmes attentes. On fait partie aussi d'un groupe de la Croix-Rouge. Donc nous, on sait que pour la ville, pour la mairie, c'est pas toujours évident. Donc dès qu'on peut partager des temps, on en partage. Dès qu'on peut partager des choses, nous on est au contraire super partant pour ça. Après, nous on va essayer d'aller chercher des financements ailleurs. Pour nous, c'est important.
Et c'est quoi alors des financements en EHPAD?
Alors les financements en EHPAD, alors on a une grosse partie de financements qui viennent du département, bien sûr, sur les prix sur l'hébergement. On a une partie aussi sur toute la partie soins, des financements qui viennent de l'ARS. Et puis après, c'est les financements des résidents qui payent une partie aussi de leur hébergement ici. Et puis après, on répond à des appels à projets, on répond quand on peut, sur tous les sujets qui nous intéressent, pour essayer d'avoir des financements complémentaires pour pouvoir faire plus de choses. Et puis on a la chance d'être soutenu quand même par toute une partie unité locale et bénévole de la Croix-Rouge française. Du coup, alors pas forcément d'un point de vue financier, mais en tout cas d'un point de vue humain, qui parfois peuvent nous rendre service.
Le PASA, voilà, c'est un lieu interne où c'est plus de l'animation thérapeutique fait par des professionnels. Et du coup, cet après-midi, ils vont proposer des crêpes aussi aux résidents. Donc voilà, c'est vraiment une journée.
Alors qu'est-ce qui fait qu'une animation est thérapeutique ?
Thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle est adaptée à teint résident. C'est-à-dire que, bah, comme je l'ai dit, il y a trois publics différents. Donc les trois publics différents n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes non plus les mêmes maladies, la même patience, les mêmes capacités neurologiques. Donc du coup, en fait, il faut qu'on s'adapte à tout le monde. C'est-à-dire que voilà, ce PASA permet d'avoir un groupe plus restreint pour pouvoir plus se concentrer sur ces personnes-là. Et voilà, parce que autrement, quand on a un grand groupe comme moi, des fois, je peux le faire avec 15-20 personnes. Voilà, c'est compliqué de pouvoir gérer tout le monde sur des temps comme ça thérapeutiques. Que là, voilà, ils sont entre 6 et 10. Et voilà, on peut vraiment se focaliser sur certaines personnes avec des jeux voilà, qui sont dits mémoire ou dits manuels. Voilà, ils ont différents thèmes dans la semaine à voir. Et voilà, c'est vraiment, ça devient pas de l'animation individuelle, mais presque. Voilà, on est vraiment plus focalisé sur eux.
Je me suis mis à peindre du jour où j'étais en retraite. Oui. Mais avant, je ne peignais pas du tout, je n'avais pas le temps. Mais j'ai une formation de base infirmière et ensuite j'ai fait toute une carrière jusqu'à être directeur des soins dans un établissement.
Et alors, Madame Boutet, quand vous aurez fini votre café, est-ce que vous allez y voir la fête qu'il y a aujourd'hui ?
La fête d'aujourd'hui s'est organisée une fois par mois. Nous avons une journée à thème autour d'un repas correspondant au thème et l'après-midi une animation en rapport aussi avec le thème de la journée. Aujourd'hui c'était la journée barbecue, donc on a eu un repas à base d'éléments de barbecue, saucisses, merguez, et on a terminé avec une excellente glace. L'après-midi je pense qu'il est prévu d'avoir un chanteur et une partie de crêpes. Donc on va se régaler encore cet après-midi et on va chanter.
Et un bistrot.
Un bistrot avec des boissons alcoolisées. On goûtera ça avec modération.
Bien sûr.
Merci beaucoup. Donc là, j'aperçois une platine vinyle, parce que sur cet événement, la fête du quartier, il y a un vestiboutique, il y a un poulailler aussi qui est là tout le temps, on en a parlé aussi. Et là, c'est quoi de la musique? C'est contributif, je crois, participatif?
Ouais, on a eu cette idée-là, début du mois de juillet.
David Racapé.
Puisqu'on a fait un autre grand temps, c'était notre kermesse du développement durable. L'idée aussi, c'est de parler un peu d'écologie, un peu de développement durable. On a invité une ferme urbaine, on a invité les gens de la mairie de Tours, justement, la Brigade Verte, qui sont venus faire un peu de nous parler un peu de tout ce qui est mégots, et traitement des mégots et autres. Et on s'est dit, voilà, on a aussi des résidents mélomanes, on a aussi des gens qui écoutent un peu de musique, ou aussi des vieux disques chez eux, dans leur appartement, et on s'est dit bah tiens, si on essayait de les dépoussiérer un peu. Alors moi voilà, j'aime beaucoup les disques vinyles, j'aime beaucoup ça, donc on s'est dit bah tiens, on va mettre une platine, on les gens ramènent quelques disques, on les dépoussière un peu et puis surtout on les écoute quoi, et du coup ça fait plaisir aussi.
Et donc on voit là le cuisinier aussi de l'EHPAD qui est là, donc l'animateur en parlait tout à l'heure, il y a Bistro Bertha, et donc il y a une dame qui disait « Chic, on va boire un coup ouais. ». Alors du coup, est-ce que la question c'était « Qu'est-ce qu'il y a à boire ? De la sangria ?» Et du coup, de l'alcool, comment ça se passe ?
Oui, bah c'est un bistrot, donc il y a de l'alcool, il y a du soft, chacun choisit ce qu'il veut boire. En fait, un EHPAD, c'est pas un hôpital, c'est vraiment un lieu de vie. Une résidence autonomie, c'est pas un hôpital, c'est un lieu de vie. Et du coup, c'est un lieu de vie qu'on veut ouvert au maximum. Donc en fait, bah ouais, c'est comme dehors. On peut boire l'apéro, on peut boire un verre. Après, voilà, c'est comme partout, on est vigilant avec l'alcool. Enfin, les gens sont vigilants, mais en tout cas, c'est des choses qui sont possibles. Voilà. L'idée là, alors on est un peu en retard aujourd'hui, mais c'était d'avoir des petits jeux apéro aussi, mais on les fera cet après-midi. Mais en tout cas, l'idée c'est de partager autour d'un verre. Moi j'aime beaucoup le projet du bistrot Bertha, parce que c'est de ramener des bistrots à l'intérieur des établissements, c'est de faire vivre ces établissements en disant que l'établissement peut être ouvert sur l'extérieur un maximum. Donc c'est vraiment un projet moi que je trouve admirable. Là, je suis trop content qu'ils fassent le tour des EHPAD Croix-Rouge, Tour de France des EHPAD Croix-Rouge pour ce projet-là. Et nous, bah voilà, c'est un moment où on va boire un verre, on va écouter de la musique, on va discuter, on va, c'est pas des gros trucs énormes, hein, on va pas faire des danses, des trucs, des machins, mais voilà, on va partager un chouette moment. Et puis la Vesti Boutique, c'est vraiment, ça vient d'un désir et d'une envie d'une résidente qui est arrivée ici pas très en forme, mais qui avait elle, qui avait toujours milité, qui avait toujours été à la Croix-Rouge, qui avait toujours été bénévole à la Croix-Rouge et qui gérait une Vesti Boutique et qui m'a dit, mais moi, si je viens à l'EHPAD, je veux qu'on essaie de monter une Vesti Boutique. Donc là, malheureusement, en ce moment, elle est pas très en forme, donc elle nous aide pas beaucoup. Mais moi, j'avais à cœur qu'on puisse monter ça. Et en plus, de le faire vivre pour nos résidents et pour l'extérieur, mais avec encore, je le répète, des gens ici qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est chouette de pouvoir leur mettre à disposition certains vêtements et qu'on puisse, et qu'ils aient encore une fois le choix. Ils puissent choisir. On leur impose pas ce qu'ils doivent mettre ou ce qu'ils doivent manger ou ce qu'ils doivent faire, mais ils peuvent choisir. Et c'est important de leur laisser ce choix. C'est d'ailleurs une question qu'on a vue l'année dernière avec Antoine du Bistro Bertha qui était déjà venu, où je m'étais aperçu, et ça je l'avais pas du tout eu en tête au départ, des gens de l'EHPAD, j'avais dit, bah c'est super, on va pouvoir boire un verre. Il me dit, mais comment je fais? Parce que moi, en fait, depuis que je suis là, j'ai pas d'argent, j'ai pas de monnaie, j'ai plus rien. Mes enfants, en fait, ils m'emmènent, si je leur demande un truc, ils m'emmènent, mais j'ai pas de quoi être moi-même, être autonome et acheter ce que je veux. Et c'est vrai que c'est dur, en fait, de se dire ça. Donc on essaye. Voilà, on a trouvé le système de jetons, mais on essaye de remettre ça un peu et vraiment, encore une fois, qu'ils puissent garder cette place de citoyen un maximum. C'est pas parce qu'on est en établissement qu'on perd tout, quoi. Enfin, voilà, c'est comment on garde cette place de citoyen et comment on, à nous de trouver des solutions pour leur permettre de la garder un maximum.
C'est une façon de penser l'accueil qui peut être intéressant aussi pour les personnels qui travaillent ici. Cette pensée de...
On aimerait. Alors ça, c'est un deuxième combat, c'est de faire comprendre à nos soignants qui sont là pour le soin, mais aussi pour prendre soin de la personne. Et prendre soin, ça veut dire partir des besoins et partir des envies et partir des projets de la personne. Donc on travaille à chaque fois sur un projet personnalisé, mais le projet personnalisé, on veut que nos soignants le suivent réellement et prennent vraiment le temps avec la personne pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Alors on sait que c'est compliqué, et ça c'est tout notre combat, on combat avec d'autres fédérations aussi pour dire, on manque de moyens, on manque de professionnels dans nos établissements pour permettre ça. Des fois, on sait que le matin, on voit bien, elles ont les toilettes à faire, et des fois, elles ont peu de temps pour s'arrêter, et nous on essaye d'organiser pour qu'elles puissent avoir dans la journée des temps pour souffler, pour être vraiment avec les résidents. Donc, c'est parfois possible à certains moments, quand il y a des personnes absentes, ça devient compliqué. Mais on essaye, en tout cas, c'est dans notre volonté d'y arriver.
Pourvu que ça marche.
Merci.
Merci. En direct du Bistro Bertha, donc on vient même de me servir un cocktail. Alors, bonjour Bistro Bertha.
Bonjour. je suis Antoine Gérard, je suis le fondateur de l'association Bistro Bertha. Bistro Bertha, on crée des bars dans les EHPAD pour remettre un peu de vie dans ces établissements, ouvrir ces établissements sur leur territoire et changer l'image de... assez péjoratif qu'ils peuvent avoir.
Donc là, j'ai même la chance de goûter un des cocktails qui sont prévus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Aujourd'hui, là, j'ai goûté une sangria romarin, pamplemousse romarin. Aujourd'hui, on a une carte avec 5 sangrias de prévus. Une sangria rosée, romarin, pamplemousse. On va en avoir une classique orange, vin rouge. Et puis, on va avoir des sangrias blanches, des sangrias roses, pêche, fraises. Pas mal de choses. Et puis à côté, vous avez le mocktail du jour, qui est un mojito sans alcool. Et puis de toute façon, toutes les sangrias, on peut aussi les faire sans alcool.
Voilà, donc là, c'est une carte de bar, comme dans un bar classique. Il y a de l'alcool, du sans alcool, des sodas, des sirops. Donc ça, c'est important aussi quand on intervient en EHPAD, qu'il y ait ce choix.
C'est important qu'il y ait ce choix, c'est important qu'il y ait cette normalité de pouvoir arriver dans un comptoir, parce que c'est un vrai comptoir, là où vous êtes attablé, qui permet vraiment de commander ce qu'on commanderait dans un vrai bar. Alors, on n'a pas d'alcool fort, on n'a pas de whisky, on n'a pas de vodka, mais soyons réalistes, c'est pas ce que les gens viennent commander. Les gens viennent nous commander des verres de vin, viennent nous commander des bières, donc c'est ça qu'on propose.
Alors comment on passe de sociologue à derrière le comptoir de Bistro Bertha ?
on y passe de manière assez naturelle. J'avais vraiment envie de sortir de la recherche et de faire quelque chose de vraiment de terrain, vraiment d'action. Et donc notre métier étant de créer des lieux de vie, finalement je suis plutôt bien armé pour comprendre comment ça fonctionne, quels vont être les tenants et les aboutissants pour à la fois qu'au sein de l'équipe on arrive jusqu'au bout du projet et puis même qu'après que ce lieu de vie prenne vraiment vie. Donc finalement je ne me sens pas totalement déconnecté. Alors un peu plus comme en ce moment où on fait un tour des EHPAD de la Croix-Rouge avec un bistrot éphémère et itinérant où c'est moi qui suis derrière le comptoir. Le reste du temps, moi, je ne suis pas derrière le comptoir. Moi, je suis là pour que les projets prennent vie.
Alors, ça veut dire comment ça que le projet prenne vie? Quel est votre rôle? Vous missionnez des gens pour installer des bistrots Bertha dans des EHPAD? Comment ça se passe?
Mon rôle, c'est créateur de bistrot. Vraiment, je crée le bistrot de A à Z avec les équipes. Les équipes, avec toutes les parties prenantes de l'établissement. On se réunit pour imaginer un lieu. Moi, je suis là pour les guider, pour faire aboutir leur vision. C'est un travail d'assistance à maîtrise d'ouvrage, finalement. Et puis ensuite, une fois qu'on a imaginé le lieu, il faut le réaliser. Et après, il faut réussir son intégration dans l'établissement. Donc là, c'est beaucoup plus de la formation, de l'accompagnement des équipes. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a un autre travail un peu plus souterrain à faire, mais qui est tout aussi important. C'est toute la mise en œuvre opérationnelle du lieu. Il ne suffit pas de décider d'ouvrir un bistrot pour que le bistrot ouvre. Il y a toute une dimension légale, juridique qui est très importante, une dimension financière qui est clairement pas négligeable. Nous, ce qu'on fait, c'est des petits commerces. On n'attend pas les subventions pour pouvoir faire les choses. On fait des choses qui sont viables économiquement. Et ensuite, on va chercher à communiquer, à créer vraiment un événement autour de l'ouverture du bistrot pour que les gens osent rentrer dans les EHPAD, parce que évidemment les bistrots sont dans les EHPAD, donc il faut oser franchir la porte.
Donc on voit là l'intérêt aussi de votre formation de sociologue sur l'idée de comment même les équipes soignantes, les professionnels du lieu vont s'approprier ce bistrot Bertha pour l'intégrer dans leur accompagnement, que ce soit pas, comme vous le disiez, un truc qu'on colle dans un lieu de vie.
Alors c'est pas un truc qu'on colle, mais ça doit pas non plus devenir quelque chose sous... trop marqué soignant, etc. D'ailleurs, on a une règle dans nos bistrots, c'est les blouses, les tenues restent à l'entrée. On entre uniquement en tenue civile dans le bistrot, y compris les soignants qui sont sur leur temps de travail. Au début, elles ne sont pas très d'accord, mais finalement, elles comprennent vite l'intérêt et jouent tout à fait le jeu. Quand on entre dans un bistrot Bertha, on sort de l'EHPAD, et ça, c'est très très important. Le travail consiste vraiment beaucoup plus à... montrer que ça vaut le coup de faire venir les résidents, ils vont y prendre du plaisir et qu'ils vont créer des relations beaucoup plus naturellement que si on faisait une animation avec eux ou quoi que ce soit. Donc c'est un changement d'état d'esprit. Maintenant, les équipes qui font appel à nous, souvent ont déjà pas mal avancé dans ce cheminement. C'est pas tous les établissements qui font appel à nous, loin de là.
Ça peut être quoi les écueils justement, les freins à l'implantation d'un bistrot Bertha?
Les freins à l'implantation d'un bistrot Bertha, il y en a trois principalement. Le premier, c'est l'alcool. Parce que les gens sont vieux, on estime qu'il faut prendre soin d'eux et qu'ils ne peuvent plus décider. Évidemment, nous, on s'oppose radicalement à cette idée. On estime qu'une personne âgée reste un adulte jusqu'au bout et que ce combat est vachement important. Donc ça c'est le premier écueil, c'est une dérive un peu paternaliste sur les résidents, de soignants qui estiment mieux savoir que le résident ce qui est bon pour lui sur tous les aspects de sa vie. Ça c'est le premier frein. Le second frein, c'est un frein financier, parce que créer un bistrot Bertha, ça coûte assez cher, même si nous on crée des commerces qui après sont indépendants et autofinancés. Il y a un investissement de départ pas forcément élevé, mais qui doit être là. On ne fait pas avec rien. On ne fait pas avec des bouts de ficelle, on fait des vrais établissements et donc ça nécessite un investissement de départ. C'est le deuxième frein. Le troisième frein, on va dire, c'est des difficultés plus juridiques, administratives, etc. Parce que convaincre l'interne, c'est une chose, mais il faut aussi convaincre l'externe. Les mairies, des fois, qui sont un peu, qui se posent des questions, qui sont un peu récalcitrantes, des ARS qui sont pas toujours partantes. Donc voilà, on peut avoir un frein, on va dire, un peu plus institutionnel qui apparaît.
Alors, c'est-à-dire qu'il faut avoir une âme d'entrepreneur aussi pour se lancer dans la création de Bistro Bertha?
C'est clairement un projet entrepreneurial. Il s'avère qu'on est sur un statut associatif parce que ça correspond à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on veut faire, etc. Néanmoins, c'est les mêmes règles du jeu que n'importe quelle entreprise. Les établissements sont on va dire, clients Bistro Bertha, font appel à nous pour qu'on les accompagne dans la création du tiers-lieu. L'association Bistro Bertha va faire l'accompagnement de A à Z, avec la partie travaux qu'on ne va pas faire nous-mêmes. On ne pose pas les parpaings. Peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, on ne pose pas les parpaings. Donc voilà. Et ensuite, il y a la partie communication de Bistro Bertha et gestion. Une fois qu'on a la marque qui est lancée, l'établissement porte le nom de Bistro Bertha et continue d'exister.
C'est nous qu'on fait la musique.
Bonjour, enchanté Bistro Bertha.
Alors on va pas se mettre trop loin.
Bonjour.
C'est France Inter?
Ah, j'aimerais bien, mais c'est Radio Campus.
Qu'est-ce que c'est?
Radio Campus.
Nous sommes une pépinière, sauf que c'est une pépinière qui ne compte pas que des jeunes.
Radio Campus Tour.
Le plaisir est là, le plaisir d'apprendre, le plaisir de jouer.
RadioCampusTour.com.
Donc c'est excellent pour tout le monde.
Radio Campus Tour. Cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.
Voilà, donc Silver Economy.
Je suis pas trop fan de la notion de Silver Economy. C'est pas quelque chose auquel je m'attache pour deux raisons. La première, c'est que je pense que le terme est galvaudé et veut pas dire grand chose. Et je me sens pas très proche de toutes ces startups qui font des applications pour rencontrer les vieux. Non, il y en a des très bien, j'en connais plein, etc. Mais c'est vrai qu'on est un peu décrié comme ça, et c'est pas forcément une étiquette que je recherche. Mais surtout, moi je me sens beaucoup plus appartenir à des économies qui cherchent à recréer de la vie locale, rurale. C'est beaucoup plus ce courant-là, moi, auquel je me sens appartenir, à celui de l'habitat, de la ruralité, etc. Il s'avère qu'on a des bistrots qui sont pas que en ruralité, hein, évidemment. Mais on va pas se le cacher, hein, ce qu'on cherche à recréer, c'est des cafés de village. Hein. C'est ni plus ni moins, hein. On reprend un modèle qui est vieux comme le monde, on trouve juste une manière nouvelle que financièrement ça fonctionne. Voilà.
Alors Bertha, c'est ma bite Bertha, c'est la grosse Bertha, pourquoi ce nom?
Ce nom, il nous a paru assez évident quand on cherchait avec mon associé un nom. On ne pensait pas qu'il allait durer longtemps, mais voilà, il nous fallait un nom pour sortir. Et il nous est paru assez rapidement parce que ma grand-mère s'appelle Roberta. Et donc au début, on avait un jeu de mots avec Beast Roberta. Ah. Et en fait, on a arrêté parce que le Beast Roberta fonctionnait bien. Mais il s'avère que Café Roberta existe déjà. Et donc on s'est dit... on va les laisser alors, on va pas leur chercher des noises, on est trop petits, voilà. On va pas jouer à David contre Goliath, et donc on a fait Bistro Bertha.
Alors Bistro Bertha en tournée dans les EHPAD du réseau Croix-Rouge, où est-ce qu'on peut retrouver les Bistro Bertha sinon?
Alors là on est en tournée dans 15 établissements Croix-Rouge partout en France, hein. On a fait le Grand Est, on a fait l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait l'Occitanie, là on est en Touraine, en région centre. Demain, on sera en région parisienne pour 3 étapes, et ensuite dans le nord et dans la Normandie. Donc on aura vraiment fait toute la France, à part bien sûr certaines régions. On n'a pas fait la Bretagne, on n'a pas fait la Nouvelle-Aquitaine, mais on en a fait quand même pas mal. Et sinon, on a deux bistrots qui sont ouverts à Clichy et à Fontenay-sous-Bois, qui sont deux bistrots Bertha. Qui vivent leur vie, ils ont un salarié sur place qui gère et qui sera ravi de vous accueillir.
Ben merci, bons entendeurs, et je vois que vous avez un assistant aujourd'hui.
C'est mon fils aujourd'hui.
Oui.
C'est mon fils et mon chien pour toute la tournée. Mon fils ne vient pas à toutes les étapes là, cette année. Déjà parce qu'il grandit et parce que la console devient plus intéressante que de faire le service. Mais voilà, il vient quand on n'est pas trop loin. Parce qu'il y a quand même pas mal de routes.
Hein. Bah merci, et puis bah bonne journée à Bistro Bertha, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Pour ce reportage, je remercie les résidents et leurs familles, ainsi que les équipes de la résidence Henri Dunant Croix-Rouge de Tours et Antoine Gérard du Bistro Bertha. Ce reportage est à réécouter sur notre site radiocampustour.com.